Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous quotidien de cette émission Radio Foot consacrée au football, donc sur la radio mondiale. Nous commencerons aujourd'hui à l'est de la France avec les Rémois entre barrage et finale de la Coupe de France. Comment se prépare-t-on pour ces deux échéances importantes? L'entraîneur du Stade de Reims, Samba Diawara, nous l'expliquera dans quelques instants. Les Spurs vainqueurs de la Ligue Europa dans la finale 100% anglaise. Un but a suffi au bonheur de Tottenham pour remporter le trophée et décrocher la prochaine Ligue des Champions. Un tremplin pour une équipe à la dérive en Première Ligue et une énième déception pour Manchester United. Ryan Cherki, le petit nouveau sur la liste de Didier Deschamps à 21 ans, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais étrennera enfin le maillot des Bleus lors du tournoi final de la Ligue des Nations. Le début peut-être d'une longue aventure en équipe de France. Pour évoquer ces sujets aujourd'hui, eh bien, il y a Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes Marseillais, mais vous êtes pas rémois. Mais rien contre Reims.
Absolument rien.
Bon,
rien
alors tout va
tout.
Bien.
Tout va bien.
Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre ami des éditions Solar et puis Franck Simon. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
David Finzel m'a aidé à préparer cette émission avec Laurent Salerno, Radio Foot. Avant de lancer Radio Foot, je saluerai un auditeur que nous avons croisé aujourd'hui ici à RFI, le docteur Alassane Chérif de Conakry. Il était là pour quelques jours, heureux de rencontrer des auditeurs de la radio mondiale et nous le saluons à travers les ondes. Radio Foot donc, c'est parti.
Qualification des Rémois après 48 ans. Reims se qualifie pour la finale de cette Coupe de France. Ce sera le 24 mai face au Paris Saint-Germain.
Chaque match est une finale pour nous. Là, il y a la première manche de la finale qui a lieu demain et on ne pense qu'à ça.
C'est maintenant que l'on va savoir, au terme de ce barrage aller-retour, qui de Metz ou de Reims sera en Ligue 1 la saison prochaine.
Je pense qu'à celle-là. Une fois que ce match sera terminé, il est évident qu'on ne va pas bâcler le match qui va arriver après.
Ce barrage aller entre Metz et le Stade de Reims, pas de vainqueur. Alors on dit, dans ces cas-là, tout reste à faire.
Les joueurs du Stade de Reims, ballottés ces jours-ci par des émotions fortes et contradictoires, de vraies montagnes russes, avec dans l'ordre la joie donc d'une qualification en finale de Coupe de France, et ça peut raviver de lointains souvenirs de l'époque dorée de ce club qui l'a remporté deux fois, alors en des temps anciens, hein, 1950 et 58, et puis la terrible déception de devoir disputer des barrages pour rester en Ligue 1. Enfin, hier soir, ce premier barrage donc est un résultat nul obtenu sur la pelouse du FC Metz. Avec toutes ces émotions, comment se sent-on à 48 heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe de France qui se disputera à Paris? Eh bien, on va tout de suite en parler avec Samba Diawara. Bonjour Samba Diawara.
Bonjour à toutes et tous.
Merci beaucoup de nous faire, d'avoir la gentillesse de répondre à nos questions aujourd'hui, quand même, à un moment un peu compliqué pour votre club et pour votre équipe. Et justement, comment on se sent en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, ces montagnes russes émotionnelles?
Bah, déjà, merci pour l'invitation. Il est clair qu'on aurait préféré disputer cette rencontre dans un autre contexte, un contexte bien plus serein, qui devait être un contexte de fête par rapport à cette finale. Mais malheureusement, on n'a pas su se mettre à l'abri d'une relégation et on doit se focaliser sur ce barrage. On a eu la première manche hier à Metz, qui n'a pas été facile, mais qui nous permet de disputer un match retour où on aura tout en main pour conserver notre place en Ligue 1.
Mais alors avec cette finale au milieu, est-ce que vous pouvez dire que grâce peut-être à cette première finale qui n'était pas ratée, même si vous n'avez pas remporté le match hier, est-ce que ça a un peu libéré la tête, les joueurs dans leur tête au moins, et vous?
Bah, le match d'hier revêtait une importance particulière, dans le sens où on pouvait faire un grand pas vers le maintien et pouvoir disputer la finale de façon plus libérée si on obtenait une victoire avec un certain écart. Ça n'a pas été le cas, ça a été un match très très difficile et on s'en est tiré avec un match nul à l'extérieur qui en soi n'est pas un mauvais résultat. Du coup, aujourd'hui, le plus important, c'était de faire le point avec les joueurs, voir dans quel état ils se trouvaient physiquement, mentalement, et voir ceux qui étaient prêts à disputer l'autre finale qui est celle de la Coupe de France ce samedi.
Mmh. Samba Diawara, vous avez une longue carrière, tant de joueurs et d'international malien que d'entraîneur maintenant, ou adjoint ou à titre principal. Est-ce que vous avez la sensation d'être obligé de choisir entre ces deux enjeux que sont le prestige de disputer la Coupe de France, qui est quand même une compétition historique et avec un grand prestige en France, et puis le maintien qui est si essentiel pour un club et surtout son futur?
On ne peut pas se permettre de choisir quand on est face à ce genre de situation. Il est clair que le maintien en Ligue 1 est essentiel pour le club, mais après un tel parcours en Coupe de France, ce serait insensé de dire aux joueurs de ne pas disputer cette finale. Donc l'idée, c'était surtout de se concentrer sur le premier match, c'est-à-dire le barrage aller à Metz, de mettre toute notre énergie sur ce match, et après fonctionner presque au jour le jour en voyant dans quel état on se trouve et qui est à 100% pour pouvoir disputer la rencontre contre le Paris Saint-Germain, qui n'est pas loin d'être la meilleure équipe d'Europe.
Ben oui, c'est sans doute ça d'ailleurs le défi pour vous, c'est-à-dire déjà disputer une finale, mais en plus face à cette équipe du Paris Saint-Germain qui a survolé le championnat, est-ce qu'il y a une peur un peu de les affronter, ou surtout une peur d'encaisser beaucoup de buts et finalement d'être humilié?
La peur, c'est surtout de compromettre nos chances pour le barrage retour. C'est de jouer... Bien sûr qu'on va le jouer à fond, mais ce qu'on souhaiterait éviter, c'est les blessures, les suspensions, et on souhaite faire bonne figure. On a rencontré le PSG deux fois cette saison, et les deux fois, ça s'est pas trop mal passé, puisqu'on a obtenu des matchs nuls.
Exactement, vous n'avez pas... En tout cas, ils n'ont pas réussi à vous battre pour l'instant.
Non, mais en général, il vaut mieux rencontrer le PSG en championnat, en demi ou en quart de finale. Mais un PSG en finale, à part contre Rennes ou en Ligue de Champions, ils ne perdent pas.
Mmh, ouais. Ils rêvent de tripler même.
Il y a un titre au bout. Donc, pour nous, c'est surtout que les joueurs puissent être récompensés d'une saison difficile, mais lors de laquelle ils ont grandi et ils ont fait énormément d'efforts, et qu'ils puissent profiter à fond et qu'on ne les prive pas de ce moment.
Avec quel joueur, justement, vous allez disputer cette finale? Avec des remplaçants? Nous, on discutait ces dernières heures avec Carlos Bianchi. Hein. Vous devez savoir qui c'est.
Évidemment.
Carlos Bianchi qui nous disait « Ah ben moi, alors je choisirai la Ligue 1 et je mettrai que des remplaçants. » Ou est-ce que vous allez jouer avec faire jouer les volontaires? Ou comment va être votre choix?
Non, on va essayer de faire jouer la meilleure équipe possible. À condition que les joueurs qui sont alignés demain soient capables de reproduire les mêmes efforts, si ce n'est plus jeudi. Donc si on sent qu'il y a un joueur qui est au bout du rouleau, on le préservera. Mais on veut aligner la meilleure équipe possible avec les joueurs les plus frais. Donc c'est une équation qui n'est pas évidente, parce qu'on a joué il y a moins de 24 heures hier soir. Ici, on est encore au club où les joueurs sont en train de faire des soins, d'autres en train de faire un entraînement de compensation. Et en fonction... On va partir avec tout le groupe à Paris dès demain pour préparer la finale de la Coupe de France. Et je pense que le choix sera fait au dernier moment. Bien évidemment, il y a plusieurs options. On ne considère pas qu'il y a une équipe B. On a surtout un effectif où chacun a un rôle à jouer. Et s'il y a des joueurs attendus et qui ont joué jeudi, qui ne peuvent pas être alignés, on en alignera d'autres parce qu'ils n'attendent que ça. Je pense que le levier au niveau de la motivation, il est facile quand on a une finale à disputer, surtout au Stade de France. Donc les joueurs qui prendront le relais de ceux qui seront au repos seront à fond.
Oui.
Et on n'a aucun doute là-dessus.
Théoriquement, c'est une grande fête.
Évidemment.
Franck Simon, notre confrère, a une question aussi pour vous.
Oui, avant de débuter la question, d'abord, je voulais dire à Samba combien Je suis ému de l'entendre parce que je suis très proche de ton frère, Fous.
Ah, d'accord.
Voilà, et oui. Des fois même, il y a ce mimétisme au niveau de la voix, quand on se voit pas. Donc, félicitations.
Félicitations. Il est bien plus à l'aise que moi avec tout ça.
Mais félicitations pour ce beau parcours. T'es merci un petit beaucoup. Gars aussi de la Seine-Saint-Denis, comme moi. T'es de Pierrefitte, moi je suis du Blanc-Ménil. Donc d'abord, beaucoup de fierté. La deuxième chose, je t'ai connu aussi à travers la CAN malienne, et en sélection, ça a été le pinacle d'une carrière, je pense, internationale. Je voulais que tu évoques, j'en ai un peu parlé avec Fous, hein, mais je voulais entendre de ta voix. Tu es un serviteur de club, tu aimes travailler avec la jeunesse, tu aimes former, tu aimes post-former. Tu as été adjoint deux fois au Stade de Reims avant de prendre l'équipe première. Comment tu as évolué d'un poste à l'autre? Qu'est-ce que tu as dû mettre un petit peu de côté, toi qui es tellement passionné par les séances, le contenu, la proximité? Qu'est-ce qui a changé dans ces quelques derniers mois?
Ce qui a changé, surtout, c'est certaines responsabilités. Quand on est entraîneur adjoint, la différence entre l'entraîneur adjoint et l'entraîneur principal, c'est qu'à un moment, l'entraîneur principal doit trancher, doit faire certains choix. Alors, ce n'est pas que j'ai des problèmes à faire des choix, c'est surtout que je suis beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est animation de séance, dans tout ce qui est préparation, dans tout ce qui est relationnel avec les joueurs. Et quand on est entraîneur principal, on doit mettre ça un peu de côté, puisqu'on a des adjoints qui font un peu tout. Et du coup, j'ai l'impression de tourner en rond. Moi, je dois surtout répondre aux médias et superviser un peu le tout comme un manager. J'aime travailler en séance spécifique, j'aime aller voir des matchs de jeunes, voir l'évolution, essayer de leur proposer du contenu. Ça me manque un peu, mais j'ai toujours dit que j'étais destiné à être un adjoint ou un formateur et pas un entraîneur principal. Ici, ce sont les circonstances qui ont fait que j'ai dû prendre le relais. Mais j'aspire, et c'est pas un manque d'ambition, j'aspire à retrouver incessamment sous peu le poste qui me convient le mieux.
C'est-à-dire celui malien. Qui est dans l'ombre. Ça, c'est ton côté malien, cette
sensibilité. Oui, c'est vrai qu'il paraît que les Maliens sont. Oui, les Maliens sont... aiment bien être à l'ombre.
Pourtant, quel talent vous avez.
Pas de rêve de sélection de sélectionneur du Mali.
Ça
alors.
Sera avec Fous.
Non, ça, on laisse ça à Fous. On laisse ça à Fous. Moi, non.
Allez, ensemble, allez.
Le grand frère.
Pourquoi pas, s'il faut l'accompagner et l'assister, bien sûr. Mais j'ai jamais rêvé d'être entraîneur principal, j'ai jamais rêvé d'être sélectionneur. Ce qui me fait avancer, c'est vraiment le terrain. C'est vraiment le travail au quotidien, voir les joueurs, voir les jeunes évoluer. Et c'est ma plus grosse récompense, c'est de voir... des joueurs partir d'un point A et d'arriver à un sommet, ça c'est une fierté personnelle.
Samba Diawara, Marc Libra aimerait aussi vous dire quelques mots.
Oui, bonsoir Samba et bravo pour tout ce que tu as fait. Mais c'est vrai ma question, c'était, je prends l'exemple de Christophe Galtier que j'ai bien connu, qui a été adjoint pendant de nombreuses années. Et qui, du jour au lendemain, il a dû prendre Saint-Étienne. Et on voit la carrière de Christophe Galtier aujourd'hui. Et ma question, c'était, est-ce qu'on ne peut pas rêver plus grand? Mais en même temps, j'ai entendu ce que tu as dit, que tu aimais prendre les gamins d'un point A à un point B. Ça, il n'y a que les formateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui aiment le jeu et qui aiment le football qui peuvent dire ce genre de choses. Parce que moi, j'ai eu Henri Stambouli, feu Henri Stambouli qu'on a perdu l'année dernière. Et Henri a toujours été un très, très grand formateur. Et quand il est passé entraîneur principal dans certains clubs, et il a aussi officié en Afrique... C'était plus difficile.
C'est un homme. Avec le Mali.
Exactement. Tu l'as très bien connu. Et pour moi, je voulais avoir la question s'il a des ambitions comme Christophe Galtier. Mais dans ton discours, tu es un formateur. Et de dire, c'est la plus grande, pour moi, noblesse de prendre des gamins, de les former et de les faire aboutir. C'est la plus grande satisfaction, je pense, que tu peux avoir. Donc, mais je te souhaite quand même le meilleur. Et j'espère que tu vas battre Paris quand même. Moi, ça me ferait plaisir.
C'est vrai, mais pour pouvoir battre Paris, il m'aurait fallu un attaquant comme toi, je pense.
Mais c'est fini, moi, c'est une autre époque.
L'un de nos gros soucis, c'est qu'on a des difficultés.
Allô ?
Oui, allô ?
Ah oui, on vous entendait, on vous perdait un peu, Samba.
Ah non, non, je disais juste qu'on avait des soucis à la finition et qu'un finisseur comme Marc nous aurait fait du bien.
Donc, merci.
Comme je l'ai dit, il est à la retraite, il est certainement très bien comme ça.
C'est vrai.
Et il marque toujours quand même, hein. Les gros matchs, il continue de marquer avec les légendes.
Oui, ça, c'est vrai.
Ça se perd jamais, ça. C'est comme le vélo. En général, quand on sait marquer des buts, c'est la vie.
Samba, on va vous rappeler, excusez-nous, mais la communication s'est détériorée. On vous rappelle tout de suite pour des histoires techniques dans quelques secondes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont la foi quand même, Jean-Philippe.
Oui, mais en plus, Samba est très modeste dans son approche du match, mais
c'est vrai.
Ils ont quand même un coup à jouer parce que le PSG aura aussi la tête ailleurs quand même. Ils vont aussi essayer de ne pas prendre de coups. Finalement, chacun dans sa partie, dans son domaine, le PSG regardant vers le très 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 haut de l'Europe et Reims essayant d'éviter la D2, chacun de son côté doit enjamber finalement ce match. Donc ça donne une saveur particulière quand même, parce que sachant qu'en plus effectivement le PSG n'a pas battu Reims dans la saison régulière. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent dire
ça. Justement, Samba Diawara, pour terminer cet entretien, on a une question autour de la Coupe de France. Est-ce que vous avez un plan pour jouer ce match, un plan anti-PSG, comme diraient certains?
On peut faire contre une équipe, contre une telle équipe et contre de tels joueurs, on peut préparer tous les plans. Il faut que le PSG soit dans un moins bon jour, que nous, on soit au top de notre forme, et qu'on ait un maximum de réussite pour que ce plan puisse réussir et qu'on puisse les battre. Mais les deux rencontres qu'on a disputées, on a beaucoup subi. On a parfois plié, mais à aucun moment on a rompu. Et je pense que les vertus mentales vont être importantes. En termes de qualité, je pense qu'il n'y a pas photo. Au niveau tactique, je pense qu'ils sont bien plus avancés qu'une équipe comme la nôtre. Il y aura une certaine fatigue de notre côté. Par contre, je pense qu'avec la tête, on peut renverser des montagnes, même si la montagne parisienne, elle est difficile à gravir.
Mm-hmm. Est-ce que dans ces cas-là, et vous le sentez, il y aura quand même du plaisir pour vous, pour le club, pour l'équipe, le plaisir d'aller au Stade de France et de disputer la finale de la Coupe de France?
C'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs après le match d'hier, c'est que là, pendant quelques jours, il fallait qu'ils prennent du plaisir. Pour la plupart d'entre eux, ça sera peut-être la première et la dernière fois, ce que je ne souhaite pas, mais qui disputeront une finale de Coupe de France au Stade de France contre le Paris Saint-Germain. Donc il faut qu'ils en profitent à fond. Bien évidemment qu'il y a un enjeu, bien évidemment que ça va être difficile, et quand c'est difficile, qu'il y a de la souffrance, le plaisir, il est moins marqué. Mais ça doit être avant tout un kiff, comme on dit, chez les jeunes, et ils doivent garder plein d'images de ce match tout en étant ambitieux.
Mmh. Une dernière question, on a entendu parler de la colère des ultras, supporters de Reims. Est-ce qu'ils vous accompagneront pour cette finale et pour qu'il y ait du monde et des Rémois au Stade de France?
Oui, je pense qu'ils vont nous accompagner. Je comprends évidemment leur colère. Ils ont l'impression que la saison... qu'on n'a pas conscience de l'importance de l'enjeu du maintien en Ligue 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu pas mal de contrariétés cette saison, avec des joueurs importants blessés, notamment au niveau offensif. Mmh. On a ensuite dû vendre des joueurs parce que on connaît la situation économique de certains clubs français, et sans ces ventes, c'est difficile d'exister. Du coup, on n'était peut-être pas attendu à cette position-là, mais avec les jeunes joueurs qui, pour beaucoup d'entre eux, découvrent la Ligue 1, ils sont amenés à disputer des rencontres pour se maintenir en Ligue 1. Donc, ce n'est pas facile. Ils ont du mal à le comprendre et à l'accepter parce qu'ils aiment leur club. Et je suis certain qu'à leur place, je serais tout aussi déçu. Mais c'est pas pour autant qu'ils doivent gâcher le plaisir qui est d'aller faire la fête au Stade de France. Et on aura besoin de leur soutien, que ce soit pour cette rencontre contre le Paris Saint-Germain ou celle du match retour contre le FC Metz.
Le champagne au frais, c'est plutôt pour le milieu de semaine prochaine, alors?
Espérons qu'il soit au frais, qu'il y ait aussi un peu de champomie, parce que tout le monde n'est pas trop champagne, et que la saison puisse se terminer de la meilleure des façons, avec un maintien et avec une prestation intéressante au Stade de France.
Merci beaucoup Samba Diawara d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot. Merci de vous être prêté au jeu.
Merci à vous, ces
enfants. Bon match. Puis Stade 1, Pissancy, Samba Pissancy. Allez.
Ah voilà, il l'a fait bien.
Et sachez que Carlos Bianchi sera sur la pelouse. C'est lui qui portera le trophée sur la pelouse samedi soir. Et oui, symbole, un trait d'union entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Exactement.
Et la Coupe de France. Ouais. Super.
Merci beaucoup, Samba Diawara. Au plaisir. On espère vous avoir une autre fois pour des belles histoires et des bonnes nouvelles.
Avec grand plaisir.
Merci. À bientôt. Bonne chance donc au Stade de Reims pour ces deux prochains matchs. Nous, on va parler d'une finale qui s'est déroulée hier soir.
Tottenham Hotspur and Manchester United, the glory, glory final.
Tottenham, Manchester United, finale de la Ligue Europa 2025 à Bilbao.
So once more, and Johnson's in there!
1-0 pour les Spurs. C'est Johnson qui a surgi et qui allume la lumière.
Brennan Johnson, right on the line.
Les Spurs remportent la Ligue Europa, la première Coupe d'Europe depuis 41 ans.
Glory, glory, Tottenham Hotspur.
Tottenham verra la Ligue des Champions et Manchester United s'enfonce une fois de plus dans la nuit noire.
Spurs have gone and done it at last.
Cette finale ne restera pas dans les annales pour le jeu proposé.
Ça, c'est sûr.
Mais pour Tottenham, cette victoire veut dire beaucoup. Hier soir, donc, dans le stade San Mamés de Bilbao, envahi par 50 000 supporters anglais, apparemment, ils avaient eu des billets, les Spurs ont remporté cette Ligue Europa contre Manchester United, un seul but inscrit donc par Johnson. L'ancien Lensois, vous allez l'entendre, transfuge du dernier mercato, l'international autrichien Kevin Danso, qui est francophone, sur la pelouse encore, se féliciter de la victoire.
Oui, on a déjà joué trois fois contre eux, on a gagné tous les trois matchs et on savait que ça allait être un match difficile parce que c'est un final, mais on a croyé en nous parce qu'on sait si on joue notre football, ça va être un match comme ça, on va gagner, on va faire un clean sheet comme aujourd'hui. On s'est fait qualifier pour la Ligue des Champions. On a gagné un trophée. Ça fait trop longtemps que Tottenham n'ont pas gagné. Je suis un des joueurs qui a résolu les rêves de Tottenham aujourd'hui.
Kevin Danso, heureux donc. Ce n'était pas un grand match, Marc.
Non, je confirme.
Mais une finale, ça se gagne.
Ah non, mais on l'aura oublié. Puis pour les supporters de Tottenham, on a été très vilains, très moches. Mais à l'arrivée, la coupe, elle est à la maison. Et ils sauvent leur saison sur une Coupe d'Europe la saison prochaine, alors qu'il n'y a pas longtemps, ils sont 17e, 16e ou 17e.
Ouais, ils sont 17e. Ils regardent la relégation d'un petit peu loin.
Oui,
ils ont la chance.
Après, si vraiment. Bon, alors, il y a eu un passage de la perte d'Harry Kane, qui lui a masqué souvent et qui a souvent fait la différence. Depuis deux saisons, t'as plus ce buteur, Son, qui après de nombreuses années, j'étais ravi pour Heung-min Son, qui pour moi représente Tottenham.
Lui aussi, oui. Fond, et puis on les voyait Tottenham. Tellement ensemble avec Harry Kane. Effectivement, il était un peu
on
orphelin.
On a connu des trios, puis ce duo-là a été énormissime.
10 ans qu'il est là dans le club.
Quand ils ont dû faire la différence. Bon, alors ce qui est drôle, c'est qu'Harry Kane a gagné enfin un titre avec le Bayern. Ouais. Et Heung-min Son, il gagne un titre de son côté. Les deux, alors qu'on aurait aimé les voir ensemble.
Après,
je vais parler de Tottenham dans ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont nuls, il n'y a pas de problème. Par contre, Richarlison, Solanke, tout ce qu'ils ont fait, ces mecs-là, ils se sont arrachés. Je pense que le coach leur a dit, on est vraiment moins bons qu'eux. Ils sont peut-être pas, ils sont un petit peu plus forts que nous. Mais par contre, dans l'attitude que Richarlison, à l'heure de jeu, il sort à 65e, il est rincé un peu plus. Solanke, qui fait des rushs solitaires. C'est-à-dire que là, on dit avant le match, on dit aux attaquants, les gars, vous savez quoi, vous allez mettre le bleu de chauffe et on va balancer. Si on marque un but, les gars, mais ils n'ont même pas marqué de but. C'est-à-dire que c'est Luke Shaw qui fait une main et qui prend son gardien à contre-pied. Mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, s'il n'y a pas ça, ils ne marquent pas.
Il y a trois tirs au but.
Et il y a trois tirs au but. En seconde période, ils n'ont jamais frappé, ils n'ont jamais dans la surface.
Et
c'est
zéro,
juste un état d'esprit où tu dis à des mecs, les gars, vous êtes vraiment mauvais, vous êtes une horreur, les gars. Par contre, vous savez quoi, arrachez-vous, mettez le bleu de chauffe et sûrement, on aurait. Eh ben, c'est ce qui. Oh, faut le voir. Il démarre la seconde période. Les mecs, ils mettent à l'époque des coups de boots devant et on attend des coups de boots.
À l'ancienne.
Mais ouais. À l'ancienne. Donc on était en 90, les équipes moyennes. Eh ben, eux, ils ont gagné. Ils seront en Coupe d'Europe l'année prochaine. Bravo à eux.
On n'était pas dans les vestiaires, mais c'est possiblement ce qu'a pu dire. Parce que
pour faire ça, c'était obligé de dire ça.
Ce mec, là, l'entraîneur australien de Tottenham, est assez marrant pour ça parce que il a pas de langue de bois.
Australien avec un nom bien grec.
Bien grec. Il a pas de langue de bois en fait, et en conférence de presse il est très marrant parce que il dit vraiment les choses, et toute la saison effectivement il a dit bah on a été mauvais voilà, et ils ont joué avec leurs moyens. Bon bah c'est pas génial, sauf que effectivement pour les supporters de Tottenham qui ont pas vu un titre
plus de 4 décennies.
Ça
faisait 17 ans qu'ils n'avaient rien gagné en tout cas.
Mais sur la scène européenne,
à part il y a 2-3 ans où ils se sont mêlés pour Tottenham, une saison réussie, c'est quand ils avaient réussi à battre Arsenal ou à ne pas perdre contre Arsenal dans la saison. Ça, c'était une saison réussie. Donc, pour l'horizon de ces gens-là,
les glorieux losers
qui supportent leur club.
Ils avaient battu Manchester United déjà tout au long de la saison. Il y avait
3 fois. C'est la quatrième fois.
Pour les supporters anglais de Tottenham, c'est énorme en fait, un titre comme ça.
Je suis sûre que vous avez observé, il y avait un joueur malien et qui a eu bien son rôle dans ce match hier soir, parce qu'on évoquait effectivement Richarlison, le Brésilien et tout, mais c'est Yves Bissouma.
Devant la défense.
Et puis aussi le Sénégalais Pape Matar Sarr. C'est vraiment une belle récompense pour de l'abnégation.
Oui, ils sont impliqués les deux dans cette victoire. Ça fait plaisir pour Pape Matar Sarr. Il est très jeune. Je crois qu'il a 22 ans et c'est un premier titre européen. Et ça fait forcément du bien. Puis c'est une ligne sur un palmarès. Ça aide aussi. Oui. Et quant à Yves Bissouma, il revient de loin parce qu'à un moment donné, il avait été mis en rancard. Faut pas l'oublier par Postecoglou. Tu parlais de Postecoglou. Il produisait peut-être pas ce qu'on était en droit d'attendre de son talent. Il a un talent, Yves. Il l'avait mis au rancard, il était plus titulaire, il faisait des bouts de match, et là, il l'a ressorti de sa boîte, et ça a aidé forcément les Spurs. Ça fait plaisir. Bon, en face, il y avait aussi un gardien africain. Ça a été compliqué pour lui aussi, comme ça a été compliqué tout au long de la saison, d'ailleurs, pour lui.
En tout cas, Postecoglou, il a déjà dit « J'ai vraiment envie de bâtir sur ce trophée. » Donc, c'était clair. Il a bien conscience.
Pas grand-chose. Mais il est obligé de dire ça. Il ne peut pas leur dire autre chose.
Surtout,
T'es mauvais.
Il a eu un discours juste, il n'a pas raconté de bêtises.
Une petite parenthèse. Il y a une Ligue des Champions inespérée maintenant dans les bras qui va changer la saison prochaine.
Quand tu es bon en club, tu sais aussi quand tu es très mauvais. Et c'est là que si l'entraîneur te dit que vous êtes mauvais et que tu le sais, c'est mieux.
En tout cas, parlons aussi de l'adversaire, du triste adversaire qui était Manchester United. Mais alors vraiment interminable spirale négative. On avait lu dans la presse avant que cette finale avait été baptisée la finale des cancres. Et oui, il y en a un qui est 17e et l'autre qui est 16e de Premier League. On a vu leur saison absolument abominable. Écoutons Ruben Amorim. Est-il cet entraîneur, parce qu'on sait que les deux entraîneurs jouaient gros aussi, est-il le grand perdant de la soirée? En tout cas, vous allez voir, il a un regard, lui aussi, il a les mots qu'il faut, Jean-Philippe, il met les points sur les i.
Je ne veux pas parler de l'avenir tout de suite. Nous allons d'abord digérer la défaite et la douleur de perdre ce match. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je pense, et c'est clair pour moi, que nous étions la meilleure équipe sur le terrain. Mais nous n'avons pas réussi à concrétiser nos opportunités. Et il est compliqué de gagner des matchs dans de telles conditions, même si les gars ont tout donné pour essayer de le remporter. Maintenant, l'avenir aura le temps de tout évaluer.
Alors Ruben Amorim, il a dû voir les images quand même au cours du week-end de son club, le Sporting, avec lequel il avait fait 11 matchs et 11 victoires, qui a été finalement sacré champion de la Liga Portuguesa et même bicampéon. Ils sont double champion. Lui, il est à la tête d'une équipe à la dérive. Qu'est-ce que ça vous inspire, Franck? Est-ce qu'il peut rester en place? Apparemment, Radcliffe dit oui. Je dis tout de suite celui qui représente les proprios.
Le chantier de Man United ne remonte pas à sa nomination. Ça fait des années qu'on voit ce club glisser.
C'est pas jusqu'où il va tomber.
Oui, c'est ça le drame.
Pas de chuter,
c'est pas fini
parce qu'en plus, Ineos, qui est le propriétaire, Radcliffe a perdu énormément d'argent, des dizaines de milliards là, ces derniers temps. Donc il a annoncé
en dehors de Manchester.
Il a annoncé qu'il allait cesser ses investissements dans le sport. Ouais. Donc,
mais lui, il n'est pas 100% propriétaire.
Non,
hein.
Mais quand même.
Mais c'est lui qui a la tête du projet. Mais on a vu ce qu'il a fait à Nice. Alors on peut s'interroger. Mais il a déjà licencié là, 450 personnes.
Il va réduire la voilure encore.
La cantine.
Il va réduire la voilure encore.
C'est terminé, le grand MDO.
Donc ça augure pas de lendemain qui chante quand même. Hein.
Franck, mais quand même sur le plan du jeu, il est arrivé à la mi-saison, il est arrivé en janvier, hein, si je ne me trompe pas, à Moring. On se souvient, il savait qu'il avait un chantier, il savait que ce n'était pas simple, mais ils n'ont gagné que 6 matchs en Première Ligue en une demi-saison.
Et 20 défaites.
Oui, bien de rappeler ce chiffre. Mmh. Bah, c'est sans doute, encore une fois, qu'il a fait comme tout entraîneur qui arrive en cours de saison, il a fait un audit. Il n'a pas dû forcément se tromper sur ce qu'il a vu, sur la qualité ou le manque de qualité d'un effectif, des problèmes physiques, des problèmes techniques, des problèmes sans doute mentaux aussi, un blocage, une série qui n'en finissait pas. Et malgré lui les qualités qu'il a, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un mauvais technicien, mais le mal qui ronge le club est plus
grand. A déteint sur lui.
Oui, ça a déteint sur lui. Moi, c'est mon sentiment. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux essayer tout ce que tu veux, ça ne passe pas. Mm-hmm. Ça ne passe pas. Il y a quand même un petit peu, il y a une once de talent. Mais enfin, ils sont derrière beaucoup de monde, y compris mon club favori, comme vous le savez, mm-hmm. Everton.
Everton, oui.
C'est assez jouissif pour un supporter des Toffees de voir Man United, qui est l'ennemi du club, derrière.
Très rare. Marc, justement, comment on fait quand on est l'entraîneur? Parce que finalement, la Ruben Amorim, vous le disiez, on l'a tous lu, il a dit « on a été les meilleurs, mais on a perdu ». Bon, bah, en tout cas, quand on perd, théoriquement, c'est pas qu'on est le meilleur. En plus, il s'est frité un peu avec certains joueurs en fin de match. Garnacho, super mécontent, le jeune Argentin qui avait fait
juste
tous les matchs en tant que titulaire. Et là, il met Mason Mount, sûrement pour faire un coup. Mais bon, Bruno Fernandes lui dit « moi, s'il faut partir pour que l'argent de mon transfert puisse aider le club ».
Qui était inexistant sur ce match-là.
Oui, alors que quand même, il est là depuis 5 ans et qu'il a marqué 98 buts. Bon, hier soir, il n'a pas marqué.
C'était un fantôme.
Comment on fait quand on est l'entraîneur, là?
Déjà, il y a une réalité, c'est que son discours d'après-match où il nous explique que c'est le meilleur, il faut qu'il revienne à la... il faut qu'il soit lucide, il n'est pas lucide. On peut charrier les supporters de Tottenham qui ont vu leur équipe nulle mais qui a gagné. Eux, les supporters de Man U, ils ont vu une équipe nulle de Tottenham et encore plus nulle qui a perdu contre. Donc là, il y a le double bâton. Après, pour lui, c'est un très grand entraîneur qui sait faire jouer les équipes, il nous l'a montré. Mmh. C'est juste que quand vous avez un entraîneur, je prends l'exemple d'Habib Bey, vous arrivez en janvier. Vous ne connaissez rien. Vous rentrez dans un système qui est déjà miné. Amorim, laissons-le travailler. Je suis le premier à vous dire de le laisser travailler et on verra sur une saison complète. Et si en décembre prochain, avec une préparation, avec voir ce qu'il a fait, parce que là, il a récupéré des bouts de un, des bouts de l'autre. Il récupère des joueurs qu'il n'a pas forcément voulu et il n'a pas pu faire un mercato qu'il voulait.
Mais là, il n'y aura pas d'argent.
Et en plus, maintenant, on nous a dit, c'est trop dur, mais si on se réfère à ce qui se passe depuis que Ferguson est parti, ça a été une catastrophe avec tous les entraîneurs et des milliards ont été dépensés. Et c'est anecdotique, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus rien. T'es sérieux, t'es Man United, tu dis qu'on va réduire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut y laisser le temps.
Mais
le message est très négatif quand tu sais que c'est des clubs qui sont milliardaires, qui gagnent énormément d'argent. Ces clubs-là ne sont pas endettés. Ils n'ont pas de problème.
Si, Manchester United, c'est
maintenant,
très endetté.
Mais quand le patron est parti, tout était là avant qu'il ne fasse. Il y avait plein de choses. Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Jean-Philippe, est-ce qu'on en est encore au remous du départ de Ferguson alors que ça doit faire une dizaine d'années?
Je pense qu'en tout cas, il y a eu un creux qui était logique après le départ d'un entraîneur comme ça, ou un peu comme Wenger à Arsenal, où quelqu'un a tenu la baraque pendant 20 ans, maîtrisé tous les dossiers.
Depuis le départ de l'Arsène, aussi.
Mais quand un entraîneur comme ça part, c'est sûr que ça laisse un grand vide parce qu'il connaît tous les dossiers, tous les rouages du club. Mais ça peut durer 2, 3, 4 ans, mais pas 10. Et le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de projet sérieux.
Ils sont trompés sur les entraîneurs derrière Ferguson. Mmh. Tu l'as dit, Jean-Philippe, ils ont dépensé des dizaines de milliards, n'importe comment. Des joueurs qui arrivaient.
Des recrutements.
C'était
aussi
des recrutements de dernière minute, des paniques, des panic buys. Mmh. Ouais. Ils achetaient des gars, mais bon, pour. Et puis derrière, rien. Rien, le grand vide. Et ça dure depuis tellement d'années. Donc aujourd'hui, le chantier, c'est pire qu'un chantier.
Mais il faut le laisser travailler, il faut le tester pour qu'il puisse recruter et préparer une saison. Comme Habib, je lui souhaite beaucoup, parce qu'Habib aussi, il a sauvé Rennes. Et bien maintenant, on va voir ce que vaut Habib.
Ouais. On suivra donc à la loupe, hein, sur tout ce qui arrive à ce grand club quand même des Red Devils. Une pause et quelques notes de musique avec Sam Palanque. Ce sont des Colombiens qui aiment les rythmes africains hérités d'anciens esclaves dans cette région des Caraïbes. Ça s'appelle Chamuquina. Caballito, alors c'est colombien, son palenque, ça s'appelle Chamuquina, retrouvé sur la playlist de RFI Music.
Pour les quatre attaquants, on a Mbappé, Doué, Kolo Muani et Olise, et Thuram, et Barcola, et Dembélé. Au cage, Maignan, Samba, Chevalier. Des questions ?
Mais ça fait 24 !
Oui.
Alors, c'est un message publicitaire qui passe sur les réseaux sociaux en ce moment, mais il nous a beaucoup amusé.
On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, mais surtout, il dit, c'est un choix. C'est un choix d'entraîneur. On est 24, on change de méthode. Bon, bref, fin des championnats et retour des équipes nationales sur les pelouses. Vous l'avez entendu, hein, le nom de nos internationaux. Les sélectionneurs égrènent leur liste un peu partout. Et hier, c'était le tour de Didier Deschamps en vue de la Ligue des Nations et ce tournoi final de la compétition qui doit se dérouler en juin prochain et en Allemagne. Et justement, nous l'avions laissé en Allemagne, notre grand reporter, et il y retournera, notre double star, celui qui suit les Bleus.
Antoine Grenier,
live von der 2024 Euro in München.
Allô Antoine Grenier?
Bonjour Annie, bonjour à tous. Contrairement au bleu, ce petit jingle-là m'avait pas manqué.
Ah bon, il ne vous avait pas manqué? Je suis sûre qu'il avait manqué à nos auditeurs, parce que l'année dernière, au mois de juin, il les a beaucoup, beaucoup amusés. Et nous aussi, on doit l'avouer, donc on ne pouvait pas oublier. Vous allez encore y avoir droit, Antoine, puisque vous retournez en Allemagne, n'est-ce pas?
Exactement, il faudra le réactualiser un petit peu, parce qu'il ne faudra plus parler de l'euro, il faudra parler de la Ligue des Nations, puis ça durera moins longtemps qu'un euro, ça durera une petite semaine, l'enjeu, voire pour les Bleus, ça durera qu'un seul match, mais oui, on retourne en Allemagne début juin pour à Stuttgart et puis à Munich.
Alors Antoine, on est ravis de vous retrouver. Cette liste de Didier Deschamps, elle comporte beaucoup de classiques, hein. C'est un sélectionneur plutôt fidèle, on le sait. Elle comporte aussi bien des trous, parce qu'elle souffre de beaucoup d'absences sur blessure, cette liste, et notamment derrière.
Oui, exactement. C'est il y a une vraie hécatombe chez les patrons de l'arrière-garde. Jules Koundé est blessé avec Barcelone, Dayo Upamecano avec le Bayern, William Saliba avec Arsenal. La saison a été longue pour ces joueurs-là et du coup, ils sont sur le flanc et Didier Deschamps a dû composer dans sa liste des 25 avec la nécessité d'avoir une défense la plus performante possible, mais en faisant avec les états de forme. Et du coup, il nous a fait une petite surprise en rappelant notamment Clément Lenglet, qui sort certes d'une belle saison avec l'Atlético Madrid, mais qui était un peu sorti des radars des Bleus. Imaginez, ça faisait plus de 3 ans et demi qu'il n'était pas en équipe de France, Clément Lenglet. Et puis, il y a des petits jeunes, Malo Gusto qui revient, Loïc Badet aussi, qui est moins jeune, mais en équipe de France, qui n'a pas un énorme vécu. Puis, il y a un vrai petit nouveau, Pierre Kaloulou, le natif de Lyon, le joueur de la Juventus Turin. Bref, on aura une défense new look face à cette équipe d'Espagne et ça sera un des secteurs qu'on va évidemment le plus scruter pendant cette Ligue des Nations.
Alors, le secteur qui ne souffrait guère de blessés, lui, c'est le secteur offensif. Et là aussi, il y a un petit nouveau. Heureux d'ailleurs d'entendre son nom. Vous allez voir, lorsque Didier Deschamps l'écoutait hier, et c'était dans les locaux de l'Olympique lyonnais. On le voit sur les images, il sourit timidement, Ryan Cherki, mais il est soulagé.
Attaquant, Bradley Barcola, Ryan Cherki. Ousmane.
Ça fait plaisir, hein.
C'est, bon,
c'est le début d'une belle aventure, hein. Donc impatient de pouvoir commencer, hein. Surtout qu'on va jouer deux beaux matchs, donc impatient de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.
Antoine, votre première analyse, c'est logique ou vous diriez enfin? Ryan Cherki, parce que depuis 2019, on en entend beaucoup parler, comme un surdoué, il avait intégré l'équipe première de Lyon à l'âge de 16 ans. Ça a mis du temps ?
Oui, on en parle tellement qu'on a l'impression qu'il a toujours été plus ou moins dans le paysage et on oublie presque qu'il n'a que 21 ans, Ryan Cherki. Ça reste jeune, évidemment, même si on est habitué aux phénomènes Mbappé, Zaïre Emery, qui ont un peu fait exploser les standards et les planchers d'entrée dans la sélection. Mais oui, Ryan Cherki, clairement, ça faisait un an, deux ans qu'il faisait partie des joueurs dont on scrutait la convocation et elle venait pas. On essayait d'analyser un petit peu pourquoi. C'était pas passé très très loin au mois de mars pour les dernières rencontres de l'équipe de France. Et puis finalement, il n'avait pas passé le cut. Là, cette fois-ci, la vidéo, elle est assez touchante où on le voit sourire un peu timidement, un peu comme un enfant à l'annonce de sa convocation par Didier Deschamps. Mais il faut pas se leurrer. Il arrive parce qu'il y a énormément d'incertitudes dans le secteur offensif de l'équipe de France, notamment à cause de la finale de Ligue des Champions. Parce qu'on sait pas dans quels états de forme vont être Dembélé, Thuram, Barcola, même Désiré Doué. Enfin, ça fait partie de tous ces joueurs qui vont devoir jouer la finale de Ligue des Champions. Cherki, il va être là un petit peu comme, il le sait, comme un joueur de complément pour l'instant en équipe de France. Alors après, si j'étais un petit peu faussement naïf, je dirais c'est une forme de virage zidanesque de Didier Deschamps pour sa dernière année. Il veut envoyer du jeu, quel que soit le résultat. Voilà, ça c'est si j'étais naïf. Mais je connais mon Deschamps. En réalité, il y a énormément de pragmatisme derrière ça. Il sait que les joueurs offensifs seront crevés, incertains, voire pour certains, parce que pour Kylian Mbappé, c'est pas sûr que le Real le libère avant le 2 juin, c'est-à-dire 3 jours avant le match de l'équipe de France, parce que il y a évidemment les dates FIFA à respecter. Donc il y a tellement d'incertitudes. Ryan Cherki vient boucher un trou, à lui maintenant de se faire sa place.
Marc Lebras, est-ce que vous diriez enfin Ryan Cherki, est-ce qu'il va réussir à se faire son trou parmi ce secteur offensif déjà bien fourni?
Je ne sais pas, quand on voit les noms, Olysée, Mbappé, Kolo Muani,
Doué,
mais on peut mettre l'incertitude sur les Parisiens et sur les interistes comme Thuram, mais pour moi, c'est bien, il est là, mais je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi? Parce que normalement, il n'a pas sa place. Là, on parle de... pour moi, ça reste une désillusion. C'est un joueur qui a un potentiel, mais que je n'ai jamais vu sur une saison complète. Et j'attends d'en voir plus. Là, il nous explique qu'il va quitter Lyon, que ceci, cela. Voilà, il a du talent. Mais c'est très surprenant de voir. Je ne m'attendais même pas. Je vous dis, j'attendais.
Il est récompensé d'avoir surnagé dans la saison catastrophique de Lyon.
L'équipe de France, c'est pas tu fais plaisir parce que tu as sauvé Lyon et tu n'as pas sauvé Lyon du tout. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais c'est juste que je me trouve la question. Après, il peut aussi jouer pour un autre pays aujourd'hui, africain. Est-ce qu'il y en a plein qui disent mais attendez, pourquoi il le prend? Alors, je sais que même si on a quelques minutes, on peut aussi repartir dans le pays. Bon, je me pose la question, pourquoi maintenant, alors que c'est peut-être pas le meilleur Cherki qu'on a vu cette saison?
Ouais, en fait, la question, c'était quand est-ce qu'il, depuis 4 ans, question, c'est vraiment quand est-ce qu'il arrive en équipe de France? Alors, on a qui sont sortis du chapeau plus vite que lui et de façon
Désiré Doué, par exemple, voilà. Immédiatement.
Moi, je crois que le message, il est plutôt en interne, c'est-à-dire qu'il y a un Euro espoir qu'il aurait pu disputer aussi, et en le convoquant comme ça, là, sur ce match-là, où il va jouer certainement, parce que bon, c'est une demi-finale, mais c'est pas la compète la plus prestigieuse du monde.
Surtout s'il y a un match de troisième.
Elle arrive. Il ne pas titulaire.
Non, non, il va rentrer, sûrement. Surtout
s'il y a un match de troisième place.
Il y a deux matchs, forcément. Donc, s'il joue une troisième place, il va avoir du temps de jeu, il va connaître l'équipe de France, voilà. Et c'est pour se projeter dans l'année qui suit, et même l'objectif, il est dans un an. La question, c'est est-ce qu'il ira à la Coupe du Monde ou pas? C'est ça la question pour Deschamps. Et là, il envoie le message. Bon, c'est bon. Mm-hmm. Les espoirs, c'est fini, quoi.
Ouais. Franck, la question a été posée d'ailleurs à Didier Deschamps et vous y faisiez allusion. Est-ce qu'il aurait pu être tenté par d'autres nations et d'autres couleurs à défendre? Mais sa famille a dit et a assuré qu'à ce jour, il n'a qu'une seule nationalité française, lui qui est né à Lyon. Et en Algérie, alors aujourd'hui, ça fait la une des quotidiens. Il y a une énorme déception. Certains sont furieux contre les dirigeants de la fédération. Ça paraît quand même logique. On pense à d'autres, hein, Benzema, Fekir, qui sont de ce berceau lyonnais et qui ont aussi beaucoup fait. Lui, il est en équipe de France depuis les moins de 16 ans.
Oui, voilà, il y a quand même il y a toute une histoire, il y a tout un parcours de jeunes joueurs.
Oui, Clairefontaine, il connaît, hein, voilà, autant qu'Antoine.
Qui a balisé, en fait, lui, son histoire personnelle. C'était un choix. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a un pays de cette même région qui est le Maroc, qui dès les 16 ans, 15 ans, 16 ans, va chercher les joueurs. Hein. C'est-à-dire, ils n'attendent pas que le garçon soit tarde comme ça pour le convaincre. Est-ce que l'Algérie, à un moment donné, a fait le nécessaire pour le convaincre, essayer de le faire venir, convaincre les parents parce qu'il était mineur? Je ne saurais pas vous le dire. Il faudrait demander à Nabil Djellit, qui suit ce dossier sans doute beaucoup mieux que nous. Mais dans tous les cas de figure, il était programmé pour l'équipe de France. Après, c'est vrai, et là je te rejoins, Marco, c'est-à-dire que tu te dis, ouais, il est récupéré par le bout du bras.
Mais, oui.
Mais c'est à lui
parce que c'est
à lui
quand même un joueur irrégulier, je crois que c'est malheureusement ça qui marque un peu ces dernières années.
Mais c'est à lui de marquer des points maintenant qu'il est présent. Effectivement, Jean-Philippe l'a dit aussi, il y avait cet Euro espoir. Bon, il fait la bascule. À lui de valider des points, de montrer qu'il mérite
sa chance.
Voilà, il a sa chance, c'est maintenant ou jamais. Sachant qu'il y a cette grande compétition derrière, tu as envie de monter dans le bus, mais il va falloir continuer d'être dans ce bus. Et c'est maintenant.
Il faudrait même qu'il prenne l'avion, à mon avis, pour aller aux États-Unis.
Enfin, déjà pour les matchs, déjà pour ces matchs-là. Après, les États-Unis,
c'est
un peu lointain.
À la voile.
Antoine,
ça aurait sûrement été difficile pour Didier Deschamps d'avoir à justifier d'avoir laissé partir un joueur comme Ryan Cherki dans une autre sélection. Quoi. Autant il aurait pu. Il y a d'autres joueurs qui ont choisi des sélections africaines. On pense à Amine Gouiri, par exemple, qui a décidé d'aller jouer pour l'Algérie, mais Ryan Cherki, c'est un joueur très spécial, très spécifique, qui incarne aussi quelque chose par la formation à la française qui a tendance à souffrir un petit peu, donc Deschamps, de cette manière-là, corrige un peu le tir, et après, il n'est pas très à l'aise avec le type de joueur qu'est Ryan Cherki.
On en reparlera, Antoine, c'est promis. On vous suivra en Allemagne. On sera sur vos pas. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été en direct avec nous. Merci, messieurs. Et n'oubliez pas, demain, Café des Sports, les cartons.